Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Diodiba TV News. Bienvenue dans votre émission du jeudi, hein, politique, hein, sur Diodiba TV News. En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Diodiba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens, et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un brillant jeune politique, aussi un acteur, hein, des événements de mars 91, un ancien de l'AIEM, l'association des élèves et étudiants du Mali. Il était aussi au boulevard de l'indépendance dans la lutte contre la mauvaise gouvernance, dans la dénonciation des faits de gouvernance du régime et du président Ibrahim Boubacar Keïta, le M5 RFP, Rassemblement des Forces Patriotiques. Et du 5 juin, il était au boulevard. Aujourd'hui, le président de son parti est en exil pour ses convictions politiques. Vous l'aurez compris, notre invité est le percutant et brillant Babarou Boukoum. Babarou, bonsoir.
Bonsoir, Nathan.
Merci de répondre à notre invitation, Babarou.
Tout le plaisir est pour
vous. Ça va, Babarou, vous portez bien?
Ça va, alhamdoulilah.
Nombreux les téléspectateurs de Diodiba qui demandent de vos nouvelles.
Tout à fait, on est là aujourd'hui. On vient répondre, en tout cas, à vos différentes questions pour essayer d'apporter encore une fois de plus. Nos points de vue et puis notre façon de voir la chose, la situation nationale. Et puis essayer de voir toujours comment les choses peuvent bouger dans le bon sens. Okay. En tout cas, on reste toujours plein d'espoir que, en toutes circonstances, le pays va reprendre la marche. Ça, c'est une obligation.
D'accord. Voilà. Oui, Babarou Boukoum, hein, vous êtes un acteur, quand je dis acteur, hein, vous avez vécu l'événement de 91, vous êtes un leader aussi de l'AIEM, l'Association des élèves étudiants du Mali, même si vous étiez très jeune à l'époque. Mais vous rappelez, Babarou Boukoum, aujourd'hui, nous sommes sous une transition. Hier, les gens réclamaient la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition dirigée par des militaires. Vous, le démocrate, quelle interpellation c'est là?
On peut dire que c'est une situation triste. Elle est triste parce que il faut reconnaître que aujourd'hui, en 2024, il est presque impossible de créer un autre modèle qui puisse être, c'est-à-dire opposé à la démocratie, ou qui puisse être acceptable. Et je pense que ceux qui ont contribué à cela, une grande partie de nos intellectuels, d'ailleurs des intellectuels africains, maliens et tout ça, ont contribué à soulever un débat qui était vide de contenu en essayant d'opposer systématiquement notre modèle, le modèle démocratique avec le bien-être de la population, opposer les libertés à autre chose. Donc en réalité, la démocratie n'a pas été un frein, ni pour le développement de l'Afrique, ni pour le développement ailleurs. L'instrument que nous avons expérimenté après 1991 avait des lacunes, certes. Okay. On peut dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des erreurs, il y a eu même des abus. Mais cela ne peut en aucune façon justifier le fait de vouloir s'en débarrasser pour mettre sur place un ordre dont on n'a même pas l'appellation qui puisse correspondre à cela. Okay. Donc c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, et j'espère que au fur et à mesure que nous allons évoluer, la lumière viendra sur le Mali. Okay. Et que les gens comprendront que le seul paradigme, oui, qui puisse permettre aux Maliens d'avancer, oui, et de se projeter pour l'avenir, okay, consiste tout simplement à permettre aux Maliens de choisir librement leurs dirigeants. Okay. De pouvoir choisir les programmes politiques ou les projets de société qui correspondent à leur vision, à leur façon de voir les choses, à leur compréhension, et pour que nous puissions enfin opter pour la défense des principes, les libertés, les droits de l'homme, les droits les plus universels, parce qu'il faudrait que les gens comprennent que la liberté, les droits de l'homme sont pré-politiques.
D'accord.
ils sont liés à l'existence humaine. Donc ce n'est pas une question politique ou apolitique. Donc c'est une question existentielle et que vouloir remettre ceci en cause au nom de la sécurité, enfin on se pose la question de savoir si réellement, qu'est-ce qui reste de la sécurité lorsqu'on prive les gens de leur liberté. Parce que la sécurité avant tout, c'est après la paix. C'est la paix qui ramène la sécurité, mais ce n'est pas la sécurité qui amène la paix. Okay. Donc ça c'est...
C'est la paix qui ramène la sécurité. La sécurité qui ramène
qui produit
la paix.
Exactement.
Oui, une belle réflexion de Babarou Bokon. On va parler de crise économique, on va parler des exilés politiques, mais aussi des leaders d'opinion arrêtés et qui sont en prison. Et les leaders politiques, les leaders de la société civile qui sont en prison, on parlera aussi de cette promotion de colonels au grade de généraux à titre exceptionnel. Et puis la sécurité, les élections, une candidature possible ou probable du candidat colonel Assimi Goïta. On va poser la question. Il n'est pas encore candidat. Il n'a pas dit qu'il est candidat. On va vous poser la question sur toutes ces problématiques, sur tous ces sujets. Babarou Bokoum, pour vous, aujourd'hui, comment se porte le Mali? Est-ce que pour vous, la transition, est-ce qu'elle avance bien ou il y a des signes inquiétants?
Avancer bien, je ne crois pas. Il y a un grand penseur qui disait que ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup plus davantage lorsqu'ils restent sur le droit chemin que ceux qui ne courent et qui s'en éloignent. Donc aujourd'hui, si nous regardons la marche de cette transition, en réalité, il n'y a aucun objectif en face. Il n'y a aucun objectif qui est posé de façon claire, si ce n'est de garder le pouvoir pour ceux qui gouvernent aujourd'hui. En réalité, une transition, au sens du mot, arrive à un point de rupture où on se retrouve heurté à une situation de blocage politique, blocage institutionnel, de blocage même sur le plan économique, où on se retrouve dans une situation où il faut aller dans un autre paradigme, dans une autre situation. En ce moment, comme ce fut en 1991, on crée les conditions et sur le plan politique, économique, social et culturel, pour aller vers une nouvelle orientation qui permet au pays de reprendre la voie de la normalité et de la prospérité. Mais qu'est-ce que nous avons observé? C'est que les revendications sous M5, les revendications qui ont été portées par les hommes politiques, malgré tout ce que on reproche aux hommes politiques, mais c'était des revendications qui ont été portées en grande partie par des hommes politiques, par les moindres de la place ici, qui consistaient à revendiquer des questions liées à la paix, à la sécurité, à l'accès à l'eau, à l'énergie. Et il y avait des questions basées sur l'organisation générale du pays, d'une manière générale.
Oui.
Alors ce sont ces revendications qui ont été portées par le M5 et finalement qui est arrivé à un niveau où l'armée a intervenu dans l'espace politique. Alors, du point de vue compréhension, en principe, quand une telle situation se pose, quand l'armée intervient, elle vient en priorité pour prendre les problèmes qui ont été à la base de la chute du régime précédent, pour essayer d'apporter une réponse sur le plan économique, que ce soit sur le plan d'organisation d'une manière générale. C'est l'objectif d'une transition et de réorienter le système. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est une dynamique qui s'installe en rétrograde.
Donc pour vous, c'est une transition sans fin que c'est du ciel.
Sans fin, une transition sans fin, avec un renouvellement indéfini de mandat, avec des programmes très ambigus, une action gouvernementale inefficace, sinon inexistante, et on ne sait même pas en réalité où on va, dans une situation de conjoncture nationale et internationale. Donc, cela a permis à tout le monde aujourd'hui de voir, l'économie est presque à terre, tout le monde se cherche, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de perspective, il n'y a même pas d'horizon sur lequel on peut espérer aujourd'hui pour dire qu'il y aura un lendemain meilleur. Donc la situation, elle est critique.
Oui, ok, pour vous, la situation est critique. Et qu'est-ce que vous pensez de cette... quelle est votre lecture de cette... De cette partie de la population ou d'une partie de l'opinion qui estime que le pays est dans la bonne direction? Ou est-ce que vous, vous sentez aussi ce son de cloche?
Non, ce son de cloche est normal. Et ce n'est pas interdit. C'est ce que nous réclamons d'ailleurs. C'est cela qu'on appelle la démocratie et la liberté de choisir ou d'accompagner. Okay. Ceux qui accompagnent la transition, ils sont dans leurs droits. Et c'est pourquoi nous disons que pour quelles raisons qu'eux, ils accompagnent une transition, mais ils ne veulent pas voir ceux qui n'ont pas confiance à cette transition, qui n'ont pas confiance en l'orientation, qui doutent, qui hésitent. Et aussi, on voit au chapitre. Donc, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas leur orientation et leur soutien, ce n'est pas un problème. Pour nous, ça doit, c'est de bonne guerre, cela est tout à fait normal. Et n'oubliez pas que dans toute l'histoire, même le régime nazi avait des soutiens, un soutien énorme de la part du peuple allemand, jusqu'à ce qu'on se rende compte finalement que c'était un chemin sans issue et qui n'a apporté que désastre. Okay. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation également où nous, en tout cas, on essaye, à travers les moyens que nous avons, parce que c'est une bataille avec des armes inégales, okay. Et on essaie avec les moyens que nous avons pour apporter plus d'informations, plus d'éclairage pour que les gens puissent comprendre, oui, que le chemin qui est emprunté aujourd'hui est sans issue. Et c'est là, il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est-à-dire que vous ne croyez pas, surtout, votre pessimisme est fondé sur quoi? Pourquoi vous dites que le chemin sur lequel on est aujourd'hui n'est pas bon?
Le chemin d'abord,
il
faudrait comprendre une seule chose, oui, dès le départ. En République du Mali, actuellement, du conseiller local jusqu'au chef de l'État, personne n'est élu. Aucun n'est élu. Ça veut dire quoi? Que le pays s'est installé sur l'exercice de pouvoir basé sur les rapports de force. Celui qui est fort, il exerce. Celui qui n'est pas fort, il se met hors jeu. Ça, c'est un premier problème. Ce qui est très dangereux dans un pays. Parce que les rapports de force sont un processus qui évolue en permanence, qui change d'un côté à l'autre. Et donc, gage d'instabilité permanente. Deuxièmement, quand vous prenez l'action gouvernementale d'une manière générale, aujourd'hui, on voit l'architecture même de ce gouvernement incapable de répondre aux préoccupations des Maliens. Mettons la transition, la durée, les militaires de côté. Regardez l'objectif. C'est la cause de la gouvernance, c'est d'agir sur les difficultés des gens, c'est de régler des problèmes et de trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir répondre aux difficultés. Mais quand vous reprenez la situation point par point, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de la politique étrangère, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui a été apporté comme réponse? On voit un gouvernement dispersé où des ministres jouent leur rôle de d'autres ministères, c'est une confusion générale. Je vous prends un exemple. Vous avez le ministère des Affaires étrangères qui est devenu le ministre de la guerre, qui prend des discours belliqueux, bellicistes sur la scène, partout, qui effraie et qui explique même au monde entier que les affaires étrangères ou la République du Mali peut dîner avec des diables. Ça, c'est un fait. Vous avez le ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense. Et dîner avec le diable. Et vous avez le ministère de la Défense qui joue le rôle de la sécurité intérieure. Elle surplombe la sécurité intérieure. Au nom de la sécurité, le ministère de la Défense a absorbé la sécurité intérieure. Or, la gestion de la sécurité intérieure et de la défense nationale sont deux choses, deux doctrines totalement opposées. Et quand vous faites une confusion là-dessus, eh bien, ça peut causer beaucoup de drames.
Le porte-parole joue quel rôle?
Quel porte-parole? Le ministre de... Je vais en arriver. Oui. Vous avez au niveau du ministère des Finances, qui est presque devenu le ministre de la Justice, qui est là en permanence, dans une répression permanente contre les plus gros contributeurs de l'État, les petites et moyennes entreprises, avec une pression fiscale terrible pour juste se faire rentrer de l'argent, de les dépenser sans pour autant penser à absorber ou en tout cas à payer la dette intérieure qui permet de fluidifier l'économie nationale et l'économie réelle. Donc, dans cette démarche de pression fiscale, de répression sur les entreprises, on crée un climat de défiance, un climat de méfiance et qui n'arrange pas le climat des affaires. Et dans cette situation-là, vous allez assister progressivement à la disparition des entreprises ou à des fuites de capitaux et nous allons arriver à un niveau où vous risquez des cessations de paiement. Ça, c'est un minimum que si un ministre de l'Intérieur ou un ministre, disons le ministère des Finances et de l'Économie n'arrive pas à comprendre ces notions élémentaires de l'économie politique, n'a pas sa place au niveau du ministère des Finances. Parce que c'était une situation très complexe où vous ne pouvez pas faire une relance monétaire parce qu'on ne bat pas monnaie et donc on est obligé de jouer avec les entreprises mais tout en trouvant un moyen de les permettre de pouvoir contribuer permanemment et dans la durée pour pouvoir gérer les dépenses de l'État et leurs privilèges à eux. Donc on se retrouve dans cette situation. Et vice-versa, vous avez à tous les niveaux et le ministère de la Justice, lui, qui est chargé de la sécurité de nos concitoyens, qui est chargé de veiller sur le respect de nos droits, qui est chargé, en tout cas, de faire en sorte que les citoyens puissent se sentir en sécurité sur le plan juridique, est devenu le ministère de la Sécurité intérieure, qui est en répression permanente sans protection. Parce que les parquets, aujourd'hui, du haut de leur puissance, refusent catégoriquement d'accéder aux demandes de liberté des différentes personnalités, responsables politiques et associations qui ont été arrêtés pour des raisons politiques dont on sait. C'est purement politique ces arrestations. Et donc, on n'arrive pas à gérer ces différentes situations. Et le Premier ministre, pour finir, se mêle des politiques étrangères. Ne parle que des politiques étrangères, de ce que le voisin a fait, de ce que CEDEAO a fait, de ce que la France a fait. Ça, ce n'est pas de son ressort. Il est chargé de coordonner toutes ces actions que je viens de citer. Parce que l'action gouvernementale, ils sont interdépendants. Les uns et les autres dépendent des uns et des autres. Et donc, c'est l'action, la coordination de ces actions gouvernementales qui font bouger les lignes et qui arrivent à apporter des réponses aux difficultés. Mais finalement, dans ce tambouglio ou dans ce désordre de l'équipe gouvernementale, on voit très bien que les questions de l'inondation, la question d'électricité, rien n'est réglé. Et comment même on peut encore continuer à garder une telle équipe lorsque même le ministre de l'énergie qui est sorti à plusieurs reprises a dit plusieurs choses sans pouvoir apporter une petite amélioration dans les questions de l'électricité parce que ce n'est pas la question de l'énergie. La question de l'énergie est beaucoup plus vaste que la question de l'électricité. Et donc on n'arrive pas à apporter la réponse. Et on continue de garder ces mêmes ministres. Ça veut dire que l'État n'est pas là pour les citoyens. Ils sont là pour eux et ils exercent pour eux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, pour avoir une nouvelle orientation qui puisse correspondre à l'intérêt de la nation, il faut dans un premier temps renvoyer ce gouvernement.
Voilà. Ah, c'est pour vous, hein, ça peut...
Pour moi.
Donc pour vous, si le gouvernement ne travaille pas ou s'il n'a pas de bilan, hein, il doit être renvoyé, c'est ça?
Parce que un gouvernement est là pour atteindre des objectifs. Parce que figurez-vous que, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'on a presque la mémoire courte. Je pense que c'est ce gouvernement qui avait élaboré, à leur arrivée au pouvoir, ils avaient fait un atelier pour fixer des objectifs, pour dire que chaque ministre doit atteindre tel objectif. Il y avait des contrôles, des évaluations. Mais on en est où aujourd'hui? Qui a atteint quel objectif et dans quel sur le plan politique, économique et sur les niveaux. Et ne pas le dire, c'est vraiment c'est être
oui, parlons, vous avez parlé de la ministre de l'énergie et de l'eau, hein, elle a été quand même décorée, hein, elle a été décorée et c'est pour vous.
Bon, pour moi, vous savez que je l'ai dit, en réalité, les questions de décoration depuis des années au Mali n'a plus de valeur. Il n'y a plus de mérite derrière. Ils sont décorés par rapport au poste qu'ils occupent, mais pas par rapport à ce qu'ils ont rendu. C'est beaucoup plus le copinage, le népotisme en République du Mali. Donc, sur ce plan, je n'ai jamais voulu, depuis qu'ils ont commencé, que ce soit les grades des généraux et tout ça, à rentrer, parce que pour moi, c'est un sens. Pour moi, ce n'est pas que ça a un intérêt particulier pour les gens sur le plan politique, mais pour moi, c'est une diversion. L'urgence, est... tout ceci consiste en débat. Les vrais débats sont là, sur le plan de la paix. Comment aujourd'hui se fait-il qu'en République du Mali, ce pays se retrouve dans un affrontement interne d'une ampleur jamais inégalée, structure chaque jour que Dieu fait, qu'il soit du côté de la loi ou de l'autre côté, ou contre la loi. Mais toujours est-il que les gens, il n'y a aucune notabilité, aucune famille fondatrice, aucun imam, que ce soit religieux, que ce soit les intellectuels. Personne en République du Mali ne veut mettre en avant le débat qui conduit. Personne. Tout le monde est resté à observer une situation qui est en train de pourrir progressivement, mais pour arriver où, au juste? Donc je pense qu'aujourd'hui, si le Mali n'arrive pas à soulever le vrai débat pour la paix aujourd'hui, pour essayer de faire en sorte que englober un ensemble de choses, de grands compromis, pour qu'on puisse de pouvoir voyager ici jusqu'à Tizi Ouattara sans être inquiété. Ça, c'est possible. Et je pense que pour arriver à ce point-là, il faut qu'il y ait de la bonne volonté. Il faut que ceux qui gouvernent comprennent qu'une guerre interminable, un conflit interminable, sans objectif à atteindre, sans pour autant avoir la capacité d'imposer une orientation de la paix, n'a pas de sens. C'est, comme on appelle, une perte de temps énorme pour le pays. Et entre-temps, les veuves et les orphelins, le lot s'alourdit chaque jour que Dieu fait. Donc je pense aujourd'hui...
Qui doit prendre le leadership? Parce que souvent, on a vu que quand les citoyens veulent prendre l'initiative, souvent, pour leur opinion, ils vont en prison. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu même des imams qui sont en prison. Et hier, c'était l'imam Mahmoud Diko qui a pris l'initiative. Quand le pays, quand le centre s'embrase, ou s'embrasait, c'était lui qui prenait l'aller à la mobilisation. Aujourd'hui, qui doit ce type-là? Est-ce du côté politique? Est-ce que du côté du
leadership
ou fondatrice ou de la société?
Le leadership, c'est toujours l'État, en tout cas l'État malien qui devrait le prendre. Mais le leadership, au niveau de famille fondatrice, au niveau sont des forces morales. Ils n'existent pas pour rien dans un pays. Ils existent pour pouvoir rappeler à l'ordre à chaque fois qu'on a tendance à dévier les intérêts stratégiques du pays et en tout cas de ceux qui constitue le socle du vivre ensemble, c'est de ramener, c'est de soulever le débat. Mais l'initiateur, c'est l'État. Parce que vous n'arriverez jamais à avoir un processus de paix sans que l'État puisse en être le principe. Vous avez vu, depuis l'accord de Tamaracette, juste à chaque fois que le problème du Nord a commencé, l'État traitait cette histoire comme si c'était égal à égal. Comme s'ils avaient affaire avec un État en face. Comme si la rébellion était un État. Or, le seul État qui existe et qui est reconnu sur le plan international, c'est l'État du Mali. Et donc, même pour aller à la conquête de Kidal, on a récupéré Kidal à expliquer des choses en réalité. C'est eux qui forcent toute la démarche parce que l'État doit être au-dessus de tout cela. Même si l'exercice de la violence légitime de l'État est entre leurs mains, mais au-delà de ça, ils doivent comprendre. C'est comme un chef de famille qui parle à ses enfants, qui pose des conditions, qui est fait de faire des compromis pour que les gens s'en. Mais l'État malien n'a jamais fait cela. Tous les djamis, je ne sais pas si vous avez remarqué, après la conférence nationale de 1991, il n'y a pas eu une rencontre qui regroupait des forces vives de tous les horizons de la République où se retrouvait au centre l'État malien, qui avait réussi quand même à propulser à l'époque. Oui. Mais après cela, à Taïr, tous les débats qui ont eu lieu, c'est l'État qui se met à côté, demande aux Maliens d'aller discuter. On a vu les dernières fois, on demande à l'ancien premier ministre de réunir les gens pour aller discuter. Mais entre-temps, on élimine les partis politiques, on élimine les groupes armés, on élimine tout le monde, mais on discute entre nous, entre eux, ils discutent entre eux, ils prennent des résolutions. Entre eux, c'est une résolution de la paix. Mais
les résolutions du peuple aussi.
Mais justement,
c'est le peuple qui a transi.
Mais justement, c'est ça qui
pour
fait
tout,
que...
C'est une duperie, c'est
non,
pas le
c'est
peuple.
Une duperie parce que même s'ils arrivent à prendre toutes les résolutions du monde, ils ne pourront jamais aller vers là. S'ils ne comprennent pas la situation, d'une autre manière, de sa complexité, et de mettre les orgueils de côté pour essayer de poser le débat autrement. Parce que c'est cela la question. Aujourd'hui, à quoi bon que l'État... Alors que le problème, c'est entre l'État et les gens. C'est l'État et les gens. Parce que depuis 60, je l'ai toujours rappelé, bien notre État a été organisé et ressemble beaucoup plus au remplacement du colon. Tout lui est permis et rien aux autres. D'où les garanties à la République du Mali. Aucun citoyen n'est en sécurité. Tout moment, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté, à tort ou à raison. Et c'est cette fragilité de la liberté, du droit des citoyens à pouvoir, en tout cas, affirmer de façon claire et nette leur opportunité, leur comment on appelle opinion, etc., qui fait aujourd'hui qu'il y a problème dans le pays. Oui. Et si on ne veut pas voir cela,
oui, Oui, Baburo Bokouma, oui, sur la question des libertés, le retraitement de l'espace civique, hein, aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, ils sont nombreux, les citoyens qui ont peur même de venir sur les plateaux, dire ce qu'ils pensent. Et souvent, on a vu des gens qui parlent, qui disent ce qu'ils ne pensent pas, et parce qu'ils ont peur de se retrouver en prison, ils ont peur de se voir avec ce climat de peur ou de psychose. Est-ce que ça doit perdurer en République du Mali?
C'est un climat qu'on appelle la peur, elle est naturelle, elle est humaine. Tout être humain a peur. Et ce n'est pas parce que nous prenons la parole qu'on n'a pas peur. D'ailleurs, ne pas avoir peur, je l'ai toujours dit, c'est de l'inconscience. Okay. Mais est-ce qu'à un moment donné, les gens vont comprendre finalement que c'est le cadre général qui détermine le cadre particulier? Est-ce que les gens vont finalement comprendre cela? Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas atteint directement que vous pensez être à l'abri dans un pays lorsque les principes sur lesquels repose le pays sont fortement touchés. C'est les questions de liberté, les questions, en tout cas, d'opinion, les questions d'appartenance et surtout la question cruciale qui consiste à choisir librement son dirigeant. Parce que finalement, si ces gens touchés et que vous pensez que vous n'êtes pas concerné, et c'est une roue qui tourne. Et progressivement, quand le cadre général va être complètement détruit, et je pense que ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri vont se rendre compte que nous vivons tous sous le même toit. Et donc, c'est dans cette situation aujourd'hui que moi, je dis, en tout cas, il est de notre devoir, et quelques difficultés qui assaillent nos vies aujourd'hui, de sortir, de tirer la sonnette d'alarme et de dire très clairement que ce qui s'est fait est inacceptable. On ne peut pas continuer à arrêter les gens qui disent ce qui ne plaît pas à d'autres. Et je leur ai expliqué que ce mécanisme-là, finiront par les envahir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à force de faire disparaître toutes les voix discordantes, attends, je vais vous dire ce qui va arriver au Mali en faisant cela. Que dans chaque mouvement de masse, dans chaque révolution, les révolutions, les mouvements de masse n'ont jamais attendu la préparation de ces acteurs. Les mouvements se déclenche et il n'y a pas un service de renseignement au monde qui, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, qui a réussi à trouver les éléments déclencheurs d'un mouvement de révolte ou un mouvement de masse. Jamais. C'est des trucs improvisés, inattendus, qui sortent de rien souvent et qui s'embrasent. Alors, lorsque le pays manque de leaders, et on met une partie des leaders en exil, on met une partie en prison, et le jour où cette masse critique va se soulever à travers un petit incident d'injustice qu'elle part quelque de l'autre côté, eh bien c'est ce jour-là qu'ils vont regretter pourquoi ils ont vidé l'espace politique, ils ont vidé l'espace de leadership, parce qu'en ce moment, cette masse va s'en prendre à tous ceux qui existent comme ordre, tous ceux qui existent comme richesse, comme réussite, tout va être balayé. C'est comme ça que les guerres civiles atteignent les États, parce qu'il n'y a pas de contrôler les mouvements et les orienter. Et les
donner. Pour vous, l'absence de leader n'empêche des mouvements, des
foules. Jamais, ça n'a jamais empêché.
D'humeur, par exemple.
Justement, c'est ce que eux ne peuvent pas comprendre.
Mais est-ce que ce silence plat, ce silence où tout le monde aujourd'hui garde le silence parce que les gens ont peur, est-ce que pour vous, il y aura un déclic?
Il y aura forcément.
Les gens vont à un moment donné.
Les gens.
Comment on appelle ça, vont défendre leur opinion.
Ailleurs,
ils vont marcher, les politiques vont marcher.
C'est toujours.
Réclamer l'électricité, par
exemple. Quand on est chef de l'État, ou en tout cas chef d'un gouvernement, on doit avoir deux. On a déjà deux yeux. Il y a un œil qui doit être braqué derrière pour voir ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Et l'autre œil est là pour pouvoir voir ce qui se passe. Ce sont ces deux-là qui sont conjugués pour permettre à l'esprit de se projeter. Mais lorsque vous vous retrouvez dans un espace où les gens refusent catégoriquement de voir l'histoire, de voir la façon dont le Mali est en train d'être gouverné, qu'est-ce que ça a donné à d'autres pays qui l'ont expérimenté? Cette diplomatie idéologique basée sur l'idéologie qui prône le rejet et sinon s'enferme, qui ne laisse aucun choix à l'investissement, qui n'arrive pas. D'ailleurs, c'est cette diplomatie qui arrive à bloquer le ministère des Finances dans ses démarches, parce que le ministère des Finances et la diplomatie sont liés pour ramener la coopération, les investissements, les grands projets, les grands travaux de développement. Et donc, quand elle ne marche pas, le ministère de l'Intérieur se retourne sur les entreprises et essaye de faire ce qu'elle peut pour pouvoir subvenir aux charges, aux besoins de l'État. Mais il est évident que quoi que l'on fasse, dans un pays, c'est tout être humain. Quand il arrive à bout, il n'a pas besoin de leadership. Ça, c'est une défense naturelle, c'est un réflexe naturel chez tous les êtres humains depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Tous les mouvements de révolte arrivent parce que tout simplement les gens arrivent à un niveau où ils ne peuvent plus supporter. Or, aujourd'hui, on voit que tous les éléments sont là. Comment pouvons-nous regarder la situation de cette façon? Parce que quand moi, je parle de l'électricité à Taïf, je n'ai ni groupe ni parti. C'est de quoi je parle. Les gens souffrent mais terriblement pour des questions d'électricité. Mais personne, aucune perspective, aucun projet, même l'organisation de la question d'électricité qui permet aux gens de s'adapter, d'adapter le mode de production. Rien n'est fait. C'est le désordre total. On coupe, on ramène, on va dans tous les sens. Et on veut que cela dure pour combien de temps sans que le pays ne puisse tomber avec. Quand vous prenez le niveau de l'argent, la monnaie, l'argent a totalement disparu là-bas. Parce que, tout simplement, les entreprises, la rapidité de la circulation monétaire est très ralentie et on ne voit pas l'argent. Et vous pensez que dans cette situation-là, que les gens vont attendre jusqu'à ce qu'ils soient totalement humiliés? Et donc, moi, aujourd'hui, quand je dis cela, je sais qu'un mouvement de révolte non contrôlé est un danger pour moi-même. Je le dis pour moi, je le dis pour la classe politique et je le dis pour ceux qui dirigent. Moi, leur sécurité, ce n'est pas à moi de m'occuper de leur sécurité. Mais je m'occupe en tout cas de notre propre sécurité.
On a beau avoir un service de renseignement efficace, on ne peut pas contenir les délires d'une foule en détresse, par exemple.
Mais si on pouvait le faire, pensez-vous que Ben Ali ou Moubarak vont tomber? Ce n'est pas possible. Ils disposent des meilleurs services de renseignement à l'époque en Afrique et dans le monde. Et ce sont des régimes tellement solides, des régimes militaires, dictatoriales, solides, policiers, mais qui sont tombés sans voir comment ils sont tombés. Parce que tout simplement, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène politique et social qui fait qu'à un moment donné, il faut observer la société, son évolution, sa difficulté, pour pouvoir apporter des réponses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui dirigent sont éloignés des réalités du pays. Même s'ils entendent, ils ne savent pas de quoi on parle. Parce qu'ils sont dans un système protocolaire, éloignés des quartiers, éloigné au quotidien de la difficulté aujourd'hui qui est celle des Maliens et des entreprises qui peinent à pouvoir payer les fins de mois. Et donc, si on n'arrive pas à regarder cela, je ne sais pas pour qui on dirige.
Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour l'apaisement du climat politique? Parce que vous l'avez dit, il n'y a plus pratiquement pas d'acteurs politiques. L'essentiel de la classe politique se trouve soit en exil, soit en prison, les leaders politiques, les leaders d'opinion. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire justement?
Justement, parce que tout ça, oui, ça revient un peu à ce qu'on essayait d'expliquer. Parce qu'ils ont pensé à tort qu'en s'en prenant à ces leaders, voilà, qu'ils peuvent conserver le pouvoir. Or, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Le pouvoir n'a rien à voir avec, par exemple, Razbach qui est en prison, ou Etienne Fakaba qui est en prison, ou Rukia qui est en prison. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Vous avez tous les pouvoirs. Jamais, c'est une situation inédite au Mali, où vous avez tous les éléments de pouvoir réunis entre vos mains. Le levier politique, économique, social et culturel, vous avez tout ce qu'il va avec, et le levier sécuritaire, la répression, vous avez tout entre vos mains et le budget national. Vous êtes incapable d'apporter des réponses. Ce n'est pas à des pauvres dames ou à Razbach ou à Monsieur qu'on va aller les arrêter ou prendre Bokoum, le mettre en prison, que c'est ce qui va régler le problème du Mali. Et d'ailleurs, en parlant de déstabilisation, à chaque fois, on arrête les gens, déstabilisation. Mais qui peut déstabiliser un régime militaire? Ça, c'est entre eux là-bas. Ils n'ont qu'à se voir entre eux, mais nous, les civils, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons rien pour pouvoir affronter l'armée. Nous avons nos mots pour expliquer la situation.
Vous pouvez organiser des marches.
Les marches, justement, depuis qu'ils sont venus, depuis le 20 août jusqu'à aujourd'hui, qui a rassemblé quelqu'un au boulevard pour leur dire de quitter le pouvoir? C'est pour vous dire que toutes les conditions étaient réunies pour qu'eux, ils avancent, pour qu'ils apportent des réponses aux problèmes. Mais finalement, on se rend compte que moi, de toute façon, de mon expérience, je sais que celui qui n'a pas pu faire mieux en 4 ans ne fera jamais mieux en 5 ou 10 ans. Parce que chaque pouvoir, dans toute son évolution, les 100 premiers jours de prise de pouvoir, on sait quelle est l'orientation de tel pouvoir, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il ne peut pas apporter. Aujourd'hui, on est à 4 ans. Une transition de longue durée. interminable. Peut-être qu'on aura.
Donc pour vous aussi, vous voudrez faire.
On aura jusqu'à 2021 aux élections.
Si vous voulez faire le bilan de cette transition à mi-parcours, est-ce qu'il est bon, non, au regard de ce que vous êtes en train de
dire? Moi, je ne pourrais pas dire que ce bilan est bon parce que les principes qui me sont chers sont bafoués. Parce que pour moi, le Mali aujourd'hui est un pays, pas aujourd'hui, qui a toujours été un pays complexe, des cultures, des religions et beaucoup de choses. Donc pour pouvoir concilier cela, il faut des principes forts. Le respect des textes, le respect de la dignité et de l'honneur des gens et des autres, le respect du choix des gens. Et donc puisqu'on est sorti de là, on a considéré que ceux qui ont pris le pouvoir par les armes, avec leurs armes, peuvent décider du sort de tout le monde et personne n'a le droit de parler. Donc à partir de ce principe-là, moi je ne me reconnais en rien dans l'orientation, parce que pour moi, la base fondamentale de toute gouvernance est déjà la légitimité forte, l'adhésion et le choix libre que les gens portent en vous, et cette confiance-là a beaucoup manqué.
Ok, oui, cette confiance a manqué, peut-être aujourd'hui, la question des élections, il s'est dit que la transition prépare les élections, il s'est dit aussi que le président de la transition, Assimi Goïta, peut-être aussi candidat à une... probable futur, une probable candidature, voilà, la future présidentielle. Vous, quel est le message? Qu'est-ce que vous devez...
Quand vous avez souvent un problème de santé, vous avez peut-être une petite plaie à penser que vous ne l'avez pas fait. Après, pendant un bon moment, ça s'infecte et ça atteint un autre niveau. Ou même le cancer, ou j'en sais rien. Ce n'est pas en trouvant un pansement que vous allez régler le problème. Quand ils étaient venus au pouvoir, 20 août, jusqu'au départ, 2 ans, 3 ans, il fallait déjà, en toute priorité, se focaliser pour doter du Mali d'un instrument, en tout cas électoral, presque incontestable, qui aurait pu nous séparer en toutes circonstances. Ils ne l'ont pas fait. Donc, en ce moment-là, les élections pouvaient apporter une solution, en tout cas au problème, pour pouvoir redémarrer le système sur le plan économique et sur le plan politique pour créer la perspective d'une nouvelle base de paix au Mali. C'était possible. Okay. Mais aujourd'hui, puisque le temps est passé par là, 4 années de répression sur les hommes politiques, 4 années d'affrontement sur la scène internationale, 4 années de difficultés, et finalement, ce ne sont plus les élections qui vont régler le problème. Parce qu'au contraire, c'est le jour où ils vont faire les élections à revenir sur la voie de la démocratie. Ça veut dire que s'ils acceptent de faire les élections, ils acceptent de retourner dans le paradigme démocratique. Oui. Et en ce moment-là, je ne pense pas que si la pression sociale, les syndicats, les politiques et tout, que ce régime pourra tenir 2 mois, je ne pense pas. Donc, si aujourd'hui ils arrivent à tenir, c'est parce qu'on est dans un pronunciamento. C'est aussi évident que ça. Donc, s'ils n'arrivent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont fait une élection qu'eux, ils vont dire que moi, je m'appelle Babarou, je fais des élections, je vais m'appeler Jean, c'est pas possible. Et donc, du coup, celui qui est là, c'est lui qui sera là demain. La politique qui est appliquée aujourd'hui, c'est celle qui sera là demain. Et donc, c'est aux Maliens de voir si cette politique les arrange, c'est leur libre choix. C'est tout.
Donc, pour vous, c'est au peuple d'apprécier.
C'est au peuple d'apprécier. Parce que même nous, les hommes politiques, les gens nous disent, vous ne parlez pas, vous ne sortez pas, vous ne faites pas de manifestation. Non. Dans tous les cas, un homme politique n'est rien sans son peuple.
Quelle est la marge de manœuvre pour les politiques en cas d'élection, par exemple?
En cas d'élection, les marges de manœuvre sont libres. Okay. C'est cela. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours, en tout cas, j'appartiens à une famille politique, qui a une ligne et qui respecte la ligne des autres et qui pense que un jeu démocratique doit toujours être ouvert. Les gens ne sont pas obligés d'être ensemble sur des questions d'orientation, mais ils sont obligés d'être ensemble sur des questions de principe et de fondement. Ça, c'est l'essentiel sur lequel on doit se retrouver. Okay. Donc là, le jeu peut être ouvert. Je ne pense pas que nous, on sera dedans, parce que tant que les exilés ne sont pas rentrés, tant que ceux qui sont en prison ne sont pas libérés pour créer les conditions d'une véritable campagne politique, démocratique, libre, eh bien, nous ne n'irons pas dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui sera truqué d'avance et qui a été d'ailleurs la raison de la chute de beaucoup de régimes. Parce que les gens ont tendance à oublier que depuis des années, on n'arrive pas à maintenir les pouvoirs ou à la République du Mali. Ce n'est pas parce que ils sont faibles. Ce n'est pas parce que ATT est faible ou IBK est faible, ce n'est pas cela. C'est le mode d'accession au pouvoir étant biaisé, créant toujours des problèmes parce que vous avez au moins 1 million, sinon moins, qui adhèrent au processus démocratique. Les Maliens l'ont boudé, justement.
Oui.
Donc, ça fait que quand vous arrivez au pouvoir, vous manquez de légitimité qui vous permet d'orienter le pays. En cas de secousse, ça tombe. Et donc, ça va être pareil. Ils vont aller aux élections aujourd'hui en tripatouillant, d'ailleurs de façon illégale, parce que les textes interdisent formellement aux acteurs de la transition d'être candidats aux élections. Donc, s'ils le font, ça veut dire quoi encore? Que nous avons raison, que tout ce qui a été comme règle de jeu, ils le changent en longueur de journée. On change en fonction des besoins, on change les textes en fonction de nos intérêts. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles le Mali est en guerre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, si nous voulons la paix, si nous voulons véritablement une paix au Mali, il faut que chacun reste à son poste, comme je le dis. Et je le réaffirme encore solennellement que l'armée est un instrument de l'État. La force de sécurité des banques sont les instruments, comme la justice, comme toutes les corporations, l'éducation et tout.
D'accord. Oui, sur cette promotion de colonel à généraux, vous, quelle lecture faites-vous? Certains estiment que le contexte ne s'y prête pas. Vous, Babarou Boukoum, quelle lecture faites-vous de ces promotions-là?
Parce que moi, je ne sais pas, comme je le dis, je reviens là-dessus, je ne sais pas de quel contexte les gens y parlent en réalité. Regardez déjà le fonctionnement des services de l'État. Le budget, l'orientation du budget. Ce n'est pas parce que j'ai suivi un de mes jeunes frères, Bachili, du RPM, qui expliquait avec beaucoup de talent qu'en réalité, ce n'est pas que l'argent, il n'y en a pas. C'est le choix porté sur l'orientation de l'argent qui pose problème. C'est qu'il y a une réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés, les gens disent qu'on est en difficulté. Non, c'est parce qu'on a décidé...
Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on a choisi d'être en difficulté?
D'être en difficulté. À travers la politique qu'on est en train de mener, à travers la politique intérieure, à travers la politique d'aller en guerre systématiquement, sans rien chercher à comprendre, sans poser les bases d'une paix, on va dans un conflit qui n'a que trop duré. On continue de nourrir ce conflit, de l'alimenter. Chaque mouvement de troupes, chaque balle tirée, ça fait beaucoup d'argent. L'opération militaire coûte énormément. Ça coûte beaucoup d'argent. Et quand on met l'armée en mouvement, on est obligé de payer. Il faut que quelqu'un paye. Et donc, quand on paye, ça au détriment des autres secteurs, parce que nous ne sommes pas un pays qui a un grand budget. Et vous avez la caisse de la présidence, des autres services, comme la primature et tout, qui sont toujours garnis. Et donc, comment voulez-vous que les choses puissent être, qu'on puisse parler de contexte par rapport à la nomination de 4 ou 5 personnes pendant que le pays est en train de mourir? Il y a des choses plus sérieuses que des questions de galons, tout ça. Ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Et je pense que c'est un sujet qui n'a pas de substance pour moi. La réalité aujourd'hui, c'est comment on fait au Mali pour aller vers la paix, comment on fait aujourd'hui pour pouvoir redémarrer l'économie nationale, comment on fait pour que ceux qui sont en prison, avec les petits jeunes du MPP, mais également Baba, Haïdara, etc., qui sont là-bas. Donc, tous ces jeunes, comment on peut faire pour que ces gens-là puissent regagner leur famille? C'est ça les vraies questions aujourd'hui. C'est ça les questions stratégiques de notre pays. Comment on peut faire pour pouvoir discuter avec ceux qui ont pris des armes sur le territoire national pour qu'enfin, on puisse imposer une orientation qui nous ramène vers la paix? Parce qu'à terme, sans la paix, rien ne sera possible. Rien ne sera possible.
Pour vous, il faut, vous êtes un partenaire de la paix, il faut faire la paix.
Par tous les moyens. Okay. Et la paix n'a pas de prix.
D'accord.
Mais ce que j'ai compris, c'est que pour faire la paix, il faut être de très bonne volonté.
Oui.
Il faut souvent, j'ai vu dans l'histoire que des gens qui ont voulu faire la paix, ça les a coûté la vie. Donc la question de paix est une question de courage également. Donc il faut être courageux, il faut être capable de faire des compromis.
D'accord.
Il faut mettre toutes les questions sur la table.
Okay.
On parle de la justice. Les questions de la justice, on peut mettre les questions des cadres sur la table. Mais pourquoi est-ce que dans ce pays, on considère que les débats peuvent être des tabous? Pourquoi est-ce qu'on peut considérer que tel sujet est tabou?
Vous avez parlé de débat et puis vous avez dit que les intellectuels ont contribué et à cette perception de l'opinion publique sur la marque de la transition. Qu'est-ce que vous reportez justement et à l'intelligentsia, aux intellectuels du
Mali? L'intelligentsia et les intellectuels au Mali, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Moi, en tout cas, je n'en suis pas. Hein. Mais s'il y en a, je ne sais pas à quoi a servi leur intellectuel, leur intelligence ou comment on appelle l'intellectuel, comment on dit ça, c'est un terme un peu compliqué, mais si cela a servi à quelque chose, pourquoi est-ce qu'ils se sont tués pendant toutes ces années? Pourquoi est-ce qu'ils regardent leur pays partir en dérive et en train de s'entre-déchirer sans qu'ils puissent sortir au moins, pas de faire parti pris? On n'a pas demandé à qui que ce soit d'accuser, mais de faire des analyses, de contribuer, en tout cas, à faire jaillir la lumière, à faire éclairer les Maliens, parce que c'est ça être un intellectuel. Et de l'autre côté, je comprends un peu, parce que j'ai essayé de comprendre ce qui se passe. J'ai vu qu'au Mali, tout ce qu'on a reproché à la classe politique vient au niveau de l'administration, de ces intellectuels, de beaucoup de cadres cachés, tapis dans l'ombre, qui ont alimenté la question pour dire que la classe politique a détruit le Mali, pour qu'il ne soit pas débusqué. Parce qu'en réalité, tous les grands détournements de l'État, tous les grands, c'est-à-dire, vous pouvez trouver les hommes politiques pour des questions de signature à Taïr, mais vous n'avez pas quelqu'un qui est multimilliardaire ici, parmi les hommes politiques. Donc, où sont partis tous ces sous-là? Vous avez des fonctionnaires qui sont extrêmement riches, et donc, si aujourd'hui, au lieu d'accuser les hommes politiques, si nous, on dit aujourd'hui de faire... que chacun n'a qu'à justifier ses biens aujourd'hui, on verra bien que ce n'est pas nous qui avons détruit le pays. La justification des biens, c'est pour que la personne, aucun cadre ne l'a accepté ici au Mali, pour qu'on puisse ramener la preuve de si vous avez 5 immeubles ou un immeuble, comment vous l'avez eu. Donc c'est à partir de là qu'on pouvait situer certaines responsabilités. Mais même au-delà, quand on prend la responsabilité des hommes politiques au Mali, on voit que le pouvoir appartient au chef de l'État. Il a des institutions qui l'accompagnent. Il nomme dans toutes ces institutions-là. Comment pouvez-vous systématiquement prendre toute la classe politique pour les rendre responsables de ce qui arrive? Donc je trouve que ce débat a été piégé d'avance et les intellectuels n'ont pas joué leur rôle. Et c'est triste pour le Mali que pendant tout ce temps, si vous voyez que les plateaux sont remplis de gens qui viennent de n'importe où, qui racontent n'importe quoi, c'est parce que les intellectuels ont laissé leur place. C'est ici leur place, de venir en face de vous, de nous éclairer et de nous apporter plus d'interprétations.
Les intellectuels nous suivent, hein, ils comprennent le message de Babaru Bokouma, qui les interpelle à jouer leur rôle face à l'histoire, tous les rôles, en faisant des analyses de qualité, de décryptage de qualité sur la marche du pays et puis sur les perspectives du pays. Babaru Bokouma, je vais voir si la réalisation le permet, on va essayer de donner la parole aux téléspectateurs pour une ou deux questions avant de vous donner la parole pour certainement, vos mots de la fin. Et on va essayer de voir si la réalisation le permet, le numéro de téléphone qui s'affiche à Augustin. Il faut penser peut-être à agrandir davantage les chiffres pour des gens qui n'ont pas une vision très nette. Voilà, si on a une vision très floue, c'est petit à l'écran. Donc, Augustin Ushibeyi, prenez peut-être le soin de bien agrandir désormais les contacts pour que ça soit très clair pour les téléspectateurs qui peuvent entrer en direct dans cette émission. Mais si vous devez entrer dans cette émission, vous devez vous éloigner de votre télé et pour qu'ici on puisse mieux vous entendre, poser une question ou faire une contribution. Mais en attendant, on va continuer avec notre invité Babaru Bokouma sur la diplomatie. Vous avez dit qu'aujourd'hui on a le ministre des Affaires étrangères qui est ministre de la guerre, qui fait la guerre. Pour vous, c'est un paradoxe pour un diplomate ou un ministre chargé de la politique extérieure?
C'est plus qu'un paradoxe. C'est inquiétant et c'est triste. Parce que pour moi, la diplomatie, elle est toujours en train d'arranger les choses. Elle est toujours là à utiliser des codes. Elle dit ce qu'elle ne fait pas et elle fait ce qu'elle ne dit pas. La diplomatie n'est pas là pour effrayer, sinon ça n'a aucun sens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence que nous sommes repliés dans l'ancienne diplomatie idéologique, parce qu'il y a deux... On peut aussi être... Moi, je suis dans la diplomatie réaliste, c'est-à-dire pragmatique. Oui. On ne peut pas aujourd'hui nier l'évolution du monde. Aujourd'hui, le bouleversement sur le plan géopolitique et géostratégique, on ne peut pas nier cela si on est un professionnel des affaires étrangères. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un contexte qui est en train de naître, un nouveau contexte qui favorise le multilatéralisme.
Il y a un téléspectateur au bout du fil, Babaru Bokouma. Bonsoir.
Oui, bonsoir, chez vous.
Oui, très bien. Et vous-même, ça va?
Oui, ça va vraiment.
Vous êtes en direct hein, sur Gulliver TV News.
Oui, oui.
Oui, vous pouvez vous présenter. Oui.
Moi, c'est Abdramane Malé.
Abdramane Malé.
Oui, je suis à Assan.
Assan.
Oui.
Oui, Abdramane Malé, vous avez la parole.
Donc, est-ce que je peux m'exprimer en bambara?
Oui, allez-y, hein, l'invité, nous tous, hein, nous parlons bien bambara ici, hein, oui, allez-y.
D'accord, mais il faut.
Ok, ok.
Car invité, il faut. Oui. Oh, bon, ne va pas faire ça, ne va pas bien. Alors, allez,
Oui. On est obligé de souffrir pour que le business soit bon. D'accord. Donc pour vous.
Et pour terminer, une grossesse fait 9 mois.
Hein?
Une grossesse fait 9 mois.
Une grossesse fait 9 mois, oui.
9 mois.
Oui.
Oh, mais dis-moi, il y a des gens qui sont là. Mais les biens sont là. La terre est là.
Ok, donc
nous, on a dit, mais il faut que nous apprenions à accepter la difficulté.
Oui.
Pour que le business.
Pour qu'on puisse sourire demain. Donc, Abdramane Malé, on a compris votre préoccupation. Oui, vous dites qu'il défend, il pense qu'il y a eu de l'amélioration. Il s'exprime en langue Bamanaka. Il a parlé des examens, des concours pour les téléspectateurs qui nous suivent. Qui ne comprennent pas la langue, qui ne comprennent pas le Bamana. Le Bamanakan, oui, parce que Djouliba a une couverture internationale. Donc, pour lui, il y a un bilan. Hein, les examens se passent bien, les concours, pour lui, il y a beaucoup de transparence. Il dit même quand vous dites qu'on a choisi la difficulté, on a choisi la difficulté, voilà, sur le plan économique, il trouve que la dette intérieure, il y a eu des avancées et qu'on doit. On a longtemps été dans la facilité. Il est temps pour le Mali hein, d'accepter de faire des sacrifices pour qu'on puisse avoir le sourire. Il a même pris l'exemple hein, sur la grossesse. Oui, oui, bonsoir. On me signale qu'un autre est au bout du fil. Bonsoir.
Allô, bonsoir. Attends.
Oui, bonsoir. Comment va? Ça va bien?
Bonsoir à Babourou. À Babourou aussi.
Oui, Babourou, vous salue. Oui. C'est quel nom?
Je suis André. C'est Dr Nuhu Guindo.
Hein?
C'est Dr Nuhu Guindo.
Nuhu Guindo, oui, Nuhu Guindo, oui, vous avez la parole, Nuhu Guindo.
Ok, je suis en train de vous suivre avec intérêt.
Ok.
Et j'avoue réellement que votre débat est de qualité.
Ah, très bien, Nuhu.
Je salue le travail formidable que Atayer est en train d'abattre.
Merci.
Par rapport, comme on l'appelle, au débat.
Ok.
Parce qu'au Mali, ce qui manque réellement, c'est le débat franc.
Ok.
La question que je voudrais surtout poser,
oui.
C'est de savoir que bon, voilà, il y a des actions qui sont en train d'être menées,
oui.
Par rapport à la réconciliation.
Mm-hmm.
Et Babourou, qui parle de Babourou, parle de Oumar Marigo.
Oui.
Et maintenant, je voudrais savoir si Oumar Marigo va bien.
Oui.
Et si toutefois, comment on appelle, par rapport aux actions qui sont en train d'être menées pour la conciliation,
oui.
si Daburu a connaissance que Oumar a été contacté pour son retour au pays.
Ok.
Voilà, donc c'est une question que je voulais
poser. Merci, docteur Guido. Merci pour les questions, merci pour la contribution. Babalu Kouma, c'était un téléspectateur, un deuxième téléspectateur qui se prononce sur le débat du jour. Oui, donc lui, sa question porte sur la réconciliation. Oui, quand le retour de Oumar Mariko. Oui, bonsoir.
Salut.
Allô, bonsoir.
Bonjour,
oui, je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre télé pour qu'on puisse mieux vous entendre ici?
Ok, attends.
Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, et puis on vous écoutera.
Il n'y a pas de souci.
Voilà, on vous entend mieux maintenant. Oui, allez-y.
Voilà.
Oui.
Le plaisir a intervenu.
Oui, allez-y, oui.
Par rapport au débat.
Oui, 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 en direct, oui, allez-y.
Voilà. C'est-à-dire que
Quand on m'a fait beaucoup mieux. Oui, oui.
Pour après Mariko, mon vie a resté sur moi, quoi.
Ok.
Voilà, après Mariko, quand on a Mali, c'est qu'un Mali dans mon copron, quoi.
Hein?
Quand on a Mali dans mon copron, quoi.
Ok.
Mali dans mon copron, quoi.
D'accord, d'accord. Vous nous appelez.
Amena politique qui est en train de faire un peu de la toque.
Ok.
D'accord. Voilà, la politique qui est là. La politique qui est là, c'est faciliter Chamaï.
Oui.
Allez, nous sommes là, Chamaï. Moi, je suis là, je suis là, je suis là.
D'accord.
Ou à coupe de la pointe, c'est qui bleu, quoi, en état de ça.
Oui, ok, ok, ok.
Voilà, là, c'est pour ça que moi, c'est que. On va l'inviter sur la soupe, quoi.
D'accord.
Parce que là, c'est pour nous, on va dire, quoi.
Oui, oui, d'accord. Oui, oui.
Mais il m'a dit, quoi, ma mère est noire, qu'elle m'a donné, quoi.
Oui, oui, Augustin, on a compris. On
est à la fin.
Ok, Augustin, on a compris. On a compris. On est pratiquement à la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est un peu pris par le temps. On a compris, on est à la fin de l'émission, on a compris votre préoccupation. Et c'est un téléspectateur qui dit qu'il faut laisser il faut laisser la transition faire son chemin, que les politiques qui ont chuyé pendant tout ce temps, donc il faut il demande de les laisser.
On va commencer par lui.
Oui.
Effectivement, que Mali Dante Bamako.
Vous pouvez répondre en langue.
Je pense que Mali Dante Bamako a beau faire Jamana Mara Barao de Otene, parce que n'était pas Jamana Mara. Benin Siro. Les signes de ma coyane, ou la camoya, d'où bénis yoro, en yon de faux, pour que j'en rabe jo, faut qu'à s'y la bête là, ou est folle. Donc, mali date de ma coye, ou est chien maille, ou pana fana, en yon kelekea, halibiamo kelekea, pour que on puisse faire en sorte que le développement puisse être senti dans tout et partout. Maintenant, à quoi mon calame, calamania fana divide ou, calamania est divide à la cabbe qui chafanama. O kono te ne a fo mo kalane be se ka fli me kalambale fana ale dividi ba de passer fana lobe o fana be se ka gelaima parce que ita do hali femu do pour ka ka nyefi na donc e ko sera si fana awu me fana nenete me ma fo ka na nene mais est-ce que aw da nene ma na do be ka ke aw na wajibi aya mo ba wajibi aya aw kene de bora ka fo ko ko ke aw kelen de voter tɔw ye ka wari minɛ ka voter u ye aw kelen de ni mɔgɔw taara campagne na sigidaw la aw b'a fɔ ko ka barama sa u ye pour que aw ka voter o kɛra yan aw de y'aw da aw ka démocratie la maintenant ni sɔrasi fana de fana ka d'aw ye a filɛ nin ye aw bolo an tɛ se ka bɔ yen a bɛ yan nɔ donc ni min bɔra a la an bɛ tila k'o fana ɲɛfɔ mais aw ka dɔn anw fana bɛ yan a tu nin na ni don min na n'aw y'a dɔn k'aw bɛ fili aw bɛ segin ka na fana an bɛ ɲɔgɔn faamu a kuma kan.
Okay.
Maintenant, il y a celui qui parle
de sang, qui nous appelle de sang, pour dire qu'il y a eu la transparence au niveau des examens, concours.
Voilà, pour le concours de tout ça, Aliko, Munisma Nana, Munisma Tara, Barkan Tara. Halbi, on est toujours dans des questions mineures. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, nous avons dit, o kuma na o tun na fanga ta dɔrɔn fanga ka d'u ma o k'a fɔ ko bɔn maliyɛnw ye fanga d'aw ma san tan san mugan aw k'a gere ou la autre kalata ka ke awuni on te ka kangele fo ala ta ga dane la minu ta gaina ode jamana maratoro parce que atse ki si gaero la ka fo ko ben kera ko na ba ko bike fra bita wajibe ode na ni kala jamana ko do fo fo la ka fo ni ke medika aw famu le fait que awu ndo fo te toro. Mais pourquoi on veut faire quand on t'a des faux, même dans le quand on faut, on a des faux, quand on faut. On fait la tête. Donc, on a des malicolés. Maintenant, Bébé a espérance de dos. Il t'a fait barcan, paramilisme, tara, ce n'est pas la fin du monde. On te question, il y a un problème réglé. Parce que barcan, paramilisme, on a un problème de soi.
Il demande aussi de donner du temps pour la transition.
Donc, concours, il y a des gens qui ont dit que nous avons un concours, nous avons un fonction publique concours qui est là, nous avons dit que nous avons un bon gain. Services familiaux ben mené logement social scandale qui est là Iboro Kalama c'est la ministre ni à la fin de Bora. Donc pour vous dire que nous devons faire des questions de nous on était de l'école passé mais tout verra là-bas en meilleur nous n'a ça rien à voir en me fallait à tout de là est-ce que nous j'aimerais nous connaître un numéro chia beba kono familial beba kono sida kacha kono est-ce que nous reconnaissons ce qu'a dit si halmi chia bibo qui dit à jaguawa n'est pas ma bénie. Est-ce que jamana mun kɔnɔna mɔgɔ ye marifata ujuba la ujuba la kɔnɔna dɔ fana marifata k'ale b'a yɛrɛ lakana est-ce que n'o kɛra o jamana in kɔnɔna an bɛ sigi ka ɲɛɲini mun de nana ni kɛlɛ wa an b'a fɔ k'an bɛ taa ni bere kelen ye ne ka kuma b'o yɛrɛ de la donc aw sigilen de don aw ka sigida la aw y'aw ka position ta aw ka position ta aw tɔɔrɔ mɛ aw ko k'aw tulo tara ye anw ta ye an b'a fɔ f'aw fana k'a faamu k'a fɔ ko adamadenya ani diɲɛlatigɛ jamana kɔnɔna bɛɛ de b'i hakililata fɔ.
D'accord.
Maintenant, pour le bébé,
docteur,
qui parlait de retour, je dis à mon cher docteur, qu'ils n'ont qu'à déjà libérer Razbach, ils n'ont qu'à déjà libérer Etienne, ils n'ont qu'à déjà libérer les Rukia. On pourra, ceux qui sont en exil pourraient en ce moment avoir confiance à un retour. Mais comment pouvez-vous emprisonner des gens à l'intérieur? Et demander à l'autre là que vous lui dites il faut venir, tout qu'il va venir, il ne viendra pas. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc pour vous dire que si Oumar a été contacté ou pas, je ne suis pas au courant.
Oui.
Mais même s'il a été contacté, je pense que ce n'est pas intelligent de venir lorsque ceux qui sont déjà entre vous, mais vous n'arrivez pas à les libérer. Donc si vous voulez, comme il l'a dit, un dialogue, comme il a appelé, je ne sais pas quel terme il a appelé dans
Le cadre de la réconciliation.
Voilà, de la réconciliation. Libérer déjà ceux qui sont détenus. Oui. En ce moment, on verra le
D'accord, Babar Boukoum, on est à la fin de l'émission. Quel avenir pour la transition? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, si vous estimez que le bilan n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la situation?
Le bilan n'est pas bon et ça peut déplaire aux gens et c'est normal parce que nous ne sommes pas du même côté. Le bilan n'est pas bon parce que tout simplement la situation aujourd'hui est plus difficile qu'avant. Le bilan n'est pas bon parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est extrêmement grave de mettre la question d'énergie ou d'électricité à second plan. Parce que tous nos modes de vie sont liés à cette histoire. Et donc, le mettre en second plan n'est pas trouver un mécanisme, en tout cas clair, net, transparent, avec un plan et vu eux aussi de tout le monde pour régler ce problème, on dira que la transition n'a pas marché.
Ouais.
Donc, si la transition aujourd'hui n'arrive pas à faire en sorte qu'au Mali, qu'il y ait un véritable processus électoral transparent, correct, irréprochable, eh bien, ça veut dire que la transition n'a pas réussi. Donc, moi, je le dis aujourd'hui, je le réaffirme, ceux qui sont opposés à nos idées, qu'ils comprennent que nous avons la culture de la contradiction, on les comprend, nous ne les détestons pas, nous pensons qu'ils ont la liberté de choisir librement et qu'ils nous laissent aussi choisir et de dire ce que nous pensons à travers nos constats, nos expériences, ce à quoi nous croyons, ce pourquoi nous nous sommes toujours battus, c'est de défendre les principes, vaille que vaille, et ce sont seuls ces principes aujourd'hui qui permettent à tous les Maliens d'être en sécurité.
Okay.
Donc je l'avais dit à l'entame que ce n'est pas la sécurité qui fait la paix, mais c'est la paix qui fait la sécurité. Donc vous ne pouvez pas, au nom de la sécurité, amputer les libertés et dire qu'il y a la sécurité. Donc la première sécurité commence déjà par la liberté. Faites en sorte que les citoyens maliens soient libres et soyez en mesure de répondre aux accusations qu'on vous fait. Soyez en mesure d'apporter la réponse à nos problèmes. Lorsque un État est bien gouverné, il y a la bonne gouvernance. Lorsque les affaires de l'État sont bien gérées, l'opposition disparaîtra d'elle-même. Mais lorsque les gens, on voit au chapitre, est-ce que les gens ont de la matière à vous reprocher? C'est que vous n'arrivez pas à régler les problèmes. Donc, il faut vous en prendre à vous-même, à l'équipe que vous avez mise sur place, qui n'est pas en mesure de répondre aux préoccupations, aux urgences nationales. Et aujourd'hui, qui est incapable de ramener le pays sur la voie de la paix pour permettre à tous les Maliens aujourd'hui de pouvoir s'épanouir, de vivre librement et pour la postérité. Mais si on est incapable de faire cela, je pense qu'il faut vous en prendre à vous-même et à votre incapacité à régler la situation, pas à nous qui sommes là, qui observent et qui disent ce qu'ils pensent.
Merci, merci. Babaru Bokouma. Babaru Bokouma, toujours percutant et toujours verbe. Babaru Bokouma, secrétaire politique du Parti Zadi, c'était un plaisir de
vous parler. En plus, le parti a failli être dissous. Depuis là, on n'a pas pu discuter là-dessus.
Oui, on aurait le temps de faire.
J'avais quand même dit à l'époque que je faisais confiance à la justice, parce que c'est ça aussi la justice. C'est elle qui condamne, mais c'est elle qui blanchit.
C'est elle qui répare aussi.
Voilà, c'est
merci,
elle qui répare.
Babaru Bokouma, c'est un plaisir de partager cet entretien avec vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelez le programme de Djoliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain à 10h, demain vendredi à 10h et le samedi à midi à 00. Et cette émission est sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À jeudi prochain.